appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujima, Katanga Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Nous sommes heureux de vous retrouver encore sous la fréquence de la paix pour ce nouveau numéro de parole aux auditeurs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé Freddy Matungulu au conseil d'administration de la Banque africaine de développement pour la République démocratique du Congo, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique et la République du Congo. Freddy Matungulu, ancien ministre de Finances de la RDC, ancien fonctionnaire au Fonds monétaire international, acteur politique, membre de l'opposition, est un économiste de carrière. Et quelles pourraient être les attentes des pays concernés avec cette nomination? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine mis en onde par Willem Lungamba. J.R. Lungembo est à la réalisation et au micro, Pierrot et la Meji, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce magazine. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Rappelons que l'entrée du Congolais Freddy Matungulu au conseil d'administration de la Banque africaine de développement intervient dans les contextes où l'Union africaine aussi a lancé officiellement la zone des libres échanges. C'était lors du dernier sommet qui s'est tenu à Niamey au Niger où le chef de l'État avait participé. Ces pays ont signé la création de la zone de libre échange et la nomination de Freddy Matungulu au conseil d'administration de la BAD intervient dans ces contextes. Et le débat dans parole aux auditeurs, c'est quel pourraient être les attentes de pays qui sont concernés. Vous êtes nombreux à commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Mais nous avons aussi en ligne Monsieur Boulambo Kilosho, député national. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour, Monsieur.
Alors, vous avez travaillé dans les projets de la création de la zone des libres échanges. Mais bien avant d'arriver à cela, quel pourrait être l'impact du fait qu'un Congolais puisse siéger au conseil d'administration de la Banque africaine de développement?
Merci beaucoup, M. JR. Merci. Et bonne journée aux auditeurs de Radio Capi. Nous disons... Le problème des partenaires, donc je vais dire les financements qui nous viennent de la BAD et de autres banques comme la Banque mondiale et tant d'autres partenaires, quand vous faites le tour de nos pays, vous allez vous poser la question de savoir si autant d'années que nous sommes en contact, nous sommes en coopération avec toutes ces institutions, tous ces bailleurs. Et on se pose la question de savoir où en sommes-nous avec le développement qui devait être enclenché par ces participations. Et à cette question, je ne sais pas s'il y a qui peuvent nous dire il y a des avancées significatives. Donc, comme pour les accords de Cotonou, 40 ans après, on conclut à un échec patent. Je crois que nous devons aussi, s'agissant de tous ces appuis que nous recevons, nous poser la question de savoir si de bonnes études de faisabilité ont été organisées. Et qu'est-ce que on a récolté en termes de retombées sur la vie sociale de nos populations, sur le développement de nos pays, sur les infrastructures? Ça pose un problème. Quelqu'un comme Freddy Matungulu, qui a eu déjà à travailler dans ces institutions depuis longtemps, était désigné et un digne fils de ce pays. Il y a eu à palper les difficultés aussi bien de la RDC que des autres pays comme le Tchad et le Centrafrique, et que sais-je encore. Alors, il a été désigné, nous disons, bonne chance à lui. mais qu'ils prennent le temps pour défendre ces États, s'approcher de tout ce qui peut concourir au bon choix de projets, des projets à impact visible et certain, des projets qui ont des effets d'entraînement. Hein, ce sera cela son choix. Et il devra se ressourcer sur les spécificités locales de l'Afrique. Parce que ce qui est dangereux, c'est toujours ces projets qui nous viennent et qui nous sont remis à la main. On n'en a pas tellement besoin. Je crois que nous sommes suffisamment matures. Beaucoup de Congolais ont fait de grandes études, ont une expérience avérée. Il suffit qu'il soit, beaucoup d'Africains, je veux dire, il suffit qu'ils soient mis à contribution pour étoffer, pour échafauder, pour étoffer des stratégies. Je crois qu'à ce moment-là, on peut s'attendre à quelque chose.
Mais quand on regarde le fonctionnement du conseil d'administration de la BAD avec la supervision de différentes opérations, parce que nous parlons de ces pays, hein, ils siègent au nom de ce pays, et quand on regarde les problèmes aujourd'hui, est-ce que les problèmes sont au niveau de la Banque Africaine de Développement ou les problèmes sont au niveau de pays qui bénéficient des appuis de la banque, qui doivent avoir des projets et qui répondent effectivement aux problèmes réels qui se posent au niveau de la communauté?
Vous savez, monsieur Hier, on a de l'argent, c'est l'argent public, l'argent de Bayer, que l'on doit mettre à contribution. On doit injecter dans un projet. On doit bien s'assurer que ce projet a une quelconque efficacité et qu'il va entraîner des changements dans les pays bénéficiaires. Si ça doit être à fond perdu, pour financer des éléphants blancs que nous avons recensés, je crois que à ce moment-là, sa présence comme fils des pays concernés risque de ne pas se traduire par un effet certain attendu.
Et plus loin, Monsieur Boulambo Kilosho, parce qu'on va évoluer. Nous avons dit que cela a coïncidé avec le lancement aussi de la zone de libre-échange. Vous avez travaillé sur ces projets. Aujourd'hui, comment la RDC particulièrement peut-elle se comporter face à ces grands projets de la zone de libre-échange sur lesquels vous avez travaillé, d'une manière brève, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses qu'on voudrait peut-être aborder autour de cette question-là.
Ok, merci beaucoup, c'est JR. Déjà, un problème. Moi, j'étais le représentant de la RDC au ACP. C'est à ce titre que j'avais été désigné par les ACP comme rapporteur pour leur compte sur la création de la zone continentale de libre-échange. De la même manière, ce même effort, ce même travail avait été demandé à l'Union européenne à travers Madame de Sarnez, qui est une députée de l'Île-de-France, du parti de François Bayrou. Et nous avons déposé, nous pour l'Afrique, nous avons déposé notre contribution, et aussi ils ont fait autant, j'estime, et on a jugé le projet africain plus original, parce que il tenait compte des spécificités internes, les difficultés que connaissait l'Afrique dans les domaines de commerce et de développement. Alors, c'est sur cette base que le document de la RDC a été adopté comme draft de travail. Nous avons voyagé partout pour auprès de la RDC, jusqu'aux EFIG, autant de fois en Belgique, aux ACP et en Paris-Guerre à l'Union européenne. Pour finir, on va faire adopter ce travail en juin à Windhoek. C'était au mois de juin. Au mois de juin 2016 que nous avons fait adopter. Déjà, quand on va aller signer les accords, donc le faire avaliser par le chef d'État à Kigali, nous-mêmes qui avons été le concepteur, on n'est même pas informés. On n'est même pas invité. J'appelle notre ministre des affaires étrangères.
Alors, si nous entrons dans, oui, monsieur Boulamboukilo, si nous entrons dans toutes les procédures, ça prendra vraiment du temps. Mais si nous devons y aller dans le concret aujourd'hui, hein, parce que la RDC a signé, on a vu tous les chefs d'État qui étaient au Niger qui ont signé, spécifiquement, comment la RDC peut-elle arriver à gagner dans cette zone de libre-échange pour coupler cela au débat rapidement, parce qu'on ne va pas entrer dans le détail de comment les choses se sont déroulées.
Ce que je voulais dire, c'est que quand un projet gigantesque comme celui-là, il concerne 54 pays africains. Il est mis en œuvre. On doit aller puiser dans les profondeurs l'idée de ceux-là qui l'ont conçu pour pouvoir avancer. Bon, maintenant, la RDC. Qu'est-ce qui est recherché à travers ce projet? L'Afrique a toujours un déficit par rapport à ses besoins. Et elle est obligée de recourir aux importations compensatoires. Au niveau global, c'est cela. Au niveau régional et au niveau de chaque État, c'est cela. Nous avons des organisations qui existent. La SADC, COMESA, East Africa Community, CAC, et que sais-je encore. Ils sont des organisations qui avaient été mises en place pour cet effet. Mais il s'est avéré que finalement, ils ont versé dans le protectionnisme pour dire si nous faisons ceci, nous allons perdre parce que nous n'avons pas tellement produit et que nous serons le marché pour les autres. On a même obtenu, moi, je suis allé à Windhoek, on a obtenu, quand il y avait une réunion SADC là-bas, on a obtenu un moratoire pour l'organisation de convergence de manière à ce que la RDC ne soit pas le marché, et les autres pays africains aussi. Finalement, ce qui a motivé la création de la zone continentale de libre-échange, c'est d'avoir une structure qui serait appelée à fédérer toutes les organisations en place, qui s'impliquerait dans l'exécution de projets, notamment les autoroutes
D'ailleurs, cela a été évoqué plusieurs fois. C'est comme le projet s'étend sur une période. Oui. Cela veut dire qu'il faut que tous ces pays africains travaillent. Parce que le cas de la RDC, vous avez parlé de la production. Hein, on a parlé de ça dans les émissions passées, où les gens estiment qu'il faut que chaque pays produise. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir 50%. De produits doivent être produits sur les continents plutôt qu'y dépendre carrément de l'importation. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes député national. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, Martin est à Kinshasa. Marie-Paul, merci de nous avoir rejoint dans ces débats. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, il faut d'abord dire que la proposition à l'élévation de monsieur Félix Matungu là constitue un signe de confiance, un signe de visibilité et de fiabilité de la RDC vis-à-vis des organisations internationales. Ce qui est un aspect positif pour notre pays. En ce qui concerne par rapport aux attentes que nous pouvons attendre pour cette élévation, monsieur le journaliste, il faut comprendre une chose. Les régimes juridiques des organisations internationales interdisent ces alimentaires à faire les gens aller les étrangers. Alors, de ce point de vue-là, je ne pense pas que parce que nous avons un des Congolais qui est élevé au top des fonctions au niveau de la Banque africaine de développement, que la RDC va peut-être confondre cette élévation pour que celui-là qui est nommé s'est occasionné, je ne sais pas moi par quelle magie, beaucoup d'activités en faveur de la RDC. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le régime juridique des organisations internationales. Mais c'est plutôt ce qu'ils sont peut-être retenus, ce qu'ils fonctionnent comme ils vont le sont, c'est que par ces mouvements déjà, aujourd'hui la RDC comprend que les organisations internationales n'œuvrent pas seulement pour déstabiliser, c'est aussi pour le redressement de régimes ou pourquoi pas des systèmes politiques de la RDC. Alors pourquoi aujourd'hui déjà, lorsque on propose un Congolais à ce niveau, ça veut dire que celui-là, donc les proposer,
doit mettre dans son esprit qu'il devient philosophiquement apatride, c'est-à-dire il ne doit pas faire allégeance à la RDC qui est son pays d'origine, il doit plutôt faire allégeance aux dispositions, pourquoi pas à la charte de l'organisation internationale, parce que si cette confusion entre dans déjà dans l'esprit de celui qui est nommé, de celui qui est proposé comme quelqu'un qui va travailler à cette organisation, je crois que nous allons peut-être beaucoup plus espérer.
Alors, vous estimez pour vous, Marie-Paul, le fait qu'un Congolais soit siège au conseil d'administration de la BAD, cela ne doit pas être une occasion pour que la RDC ait un traitement des faveurs, n'est-ce pas, que ce soit dans le financement de projets. Et il travaille non seulement pour la RDC, mais il siège au nom de tous ces pays. Mais la RDC ne doit pas s'attendre à un traitement des faveurs par rapport aux projets qui peuvent lui concerner. Merci beaucoup. Martin, vous êtes ici à Kinshasa. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot, merci de m'avoir accordé la parole sur la radio de la paix, Parti Bakola Kinshasa. Moi, je veux parler sur deux volets par rapport à cette nomination. Je trouve que sur le plan de l'expérience, monsieur de l'État a fait un choix parmi les judiciaires en pointant monsieur Matongolo à la tête de cette organisation. Parce que il est resté dans ce domaine pendant quand même un bon nombre d'années et son profil aussi témoigne que quand même il convient à ce poste-là. Comme il est resté un peu longtemps là, il pourra répondre vraiment aux besoins de ces pays-là qui sont dans des besoins, dans des difficultés, parce que la BAD étant une institution technique qui doit appuyer les pays en développement, il faut qu'il soit à la hauteur, parce que ce pays-là attend de lui un travail de qualité. Et c'est à lui maintenant de voir à quel niveau il va répondre aux besoins de chaque pays et surtout aussi à l'institution qu'il a, mais parce que ce n'est pas la RDC qui doit vraiment se soutenir, mais c'est tous les pays là qui sont concernés.
Merci.
C'est ça au moins sur le plan de l'influence, parce que M. Matongolo, bon, il est resté dans ça fait longtemps. Maintenant, un autre volet, c'est sur le plan interne, maintenant ça c'est ma conviction, moi, c'est mon point de vue. Sur le plan politique, pourquoi je n'ai pas pointé sur M. Matongolo? Est-ce que dans ce pays, il n'y avait que lui? Lui a décrié le débauchage qu'on faisait autrefois par le camp adverse d'autrefois. On a débauché les gens de notre camp pour les intégrer dans l'autre. Et puis, comment il peut prendre les opposants, ses adversaires politiques, pour les nommer là-bas?
On ne fait pas les débats sur le caractère politique de qui appartient à l'opposition, à la majorité. Nous faisons le débat sur les compétences des gens. Vous estimez qu'il a la compétence pour travailler là-bas, mais le reste des choix du président de la République, de qui on peut nommer, on n'entre pas dans ces débats-là. Nous n'avons pas été dans le secret des choix de personnes. Mais du moins, vous avez insisté que la personne qui représente la RDC doit travailler pour l'intérêt. Et c'est aussi l'image du pays. S'il travaille pour l'intérêt de l'institution, c'est l'image du pays qui est aussi vendue. Merci beaucoup. Nous revenons dans ce studio avec notre invité, professeur Emmanuel Mukundi, député national élu des News dans le Tanganyika. Vous prestez aussi à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa et vous êtes l'un des négociateurs de la zone de libre-échange. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Jean-Marc.
Merci, monsieur Pierrot.
C'est monsieur Pierrot.
Oui.
Merci.
Voilà, merci beaucoup. Alors, le débat, c'est d'abord au niveau de la BAD avec la nomination de Freddy Matungulu. Est-ce que le fait d'abord d'avoir les Congolais qui doit siéger pour l'ensemble de ces pays évoqué, est-ce que c'est déjà sur le plan diplomatique une valeur ajoutée pour la République démocratique du Congo?
Exactement, c'est une valeur ajoutée, mais je voudrais quand même commencer par préciser que Matungulu, c'est un technicien, vraiment un technicien de l'économie, un professeur d'université de l'Université de Kinshasa, qui a aussi presté dans les institutions financières de Bretton Woods,
particulièrement
le Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, élever une telle personne à ce rang-là, nous devons le croire et nous devons accepter, c'est une valeur ajoutée. C'est d'une part. Alors de l'autre part, lorsque j'entends dire que est-ce qu'il va apporter quelque chose pour la RDC, oui. Il faut préciser deux choses. Ces institutions jouent deux rôles. Premièrement, c'est l'appui technique et deuxièmement, c'est l'appui financier. Si sur le plan financier, sur le plan financier, Matungulu ne peut pas influencer que nous puissions bénéficier de concours de la BAD, mais sur le plan technique, Matungulu peut nous aider, peut nous orienter. Mm-hmm. Dans la mesure où nous qui faisons des négociations sur le plan international, lorsque vous avez les vôtres dans l'institution, ils vous préparent en avance. Je vous dis par exemple, j'étais à l'Organisation mondiale du commerce l'année passée comme directeur de cabinet au ministère du commerce extérieur. Nous avons trouvé un monsieur, je crois, j'ai oublié son nom, je peux me rappeler, ils sont deux, il y a Franck et l'autre, j'ai oublié le nom. Ils nous ont aidés, n'est-ce pas, à savoir quelles sont les lignes qu'il faut prendre, parce qu'ils sont le permanent. Vous voyez que ça, c'est l'apport technique. Et si vous n'avez pas le vôtre à un niveau très élevé, vous y arrivez, vous ne connaissez pas les mécanismes, et j'apprécie un des auditeurs qui a dit, attendez, il y a des règles qu'il faut savoir.
Les juridiques qu'il faut savoir respecter.
Il faut suivre. Donc, ce ne sont pas comme les règles nationales, c'est évident. Et donc, quand vous avez le vôtre, sur le plan technique, il peut vous apporter quelque chose. Mais sur le plan financier, il ne faut pas attendre ça de manière directe, mais on peut attendre de manière indirecte. Et là aussi, je voudrais préciser par rapport, n'est-ce pas, au rôle de la BAD. Qu'est-ce que la BAD? En principe, c'est une banque. Et quel est le rôle d'une banque? C'est l'intermédiation financière, c'est-à-dire lever le fonds pour les agents à capacité de financement afin de les accorder aux agents à besoin de financement. Et les cas échéants, afin de les accorder aux pays africains qui ont des problèmes. La BAD a été créée en 1963 par le jeune pays africain indépendant, mais aujourd'hui la BAD n'est pas constituée seulement des Africains. Il y a 54 pays africains, plus 26 pays d'autres qui contribuent au capital de la BAD. Mais la BAD a pour rôle, n'est-ce pas, de soutenir le pays africain dans la mise en œuvre de projets. Alors la difficulté, c'est celle-là. J'entends quelqu'un dire, est-ce que depuis tout ce temps nous sommes dans ces institutions-là, qu'est-ce que ça nous apporte? Mais attendez, c'est une banque. Une banque, vous devez vous apporter votre projet et que ces projets soient solides par rapport à vous-même. Ces projets répondent aux besoins sociaux de votre pays. Ces projets répondent aux besoins économiques de votre pays en termes d'infrastructures et autres. En ce moment-là, la banque vous finance. Et lorsque la banque vous finance, vous devez être en mesure de mettre en œuvre d'abord, d'exécuter bien ces projets, de sorte qu'on arrive au résultat et que, si par exemple c'est en termes d'infrastructures, qu'on ait les infrastructures et ça aide à la population. Mmh. Et c'est seulement en ce moment-là que la population va sentir l'apport de cette institution. Mais qu'est-ce que nous constatons chez nous? Parfois, ces institutions sont prêtes à pouvoir nous aider, mais nous ne sommes pas capables à présenter des projets susceptibles, n'est-ce pas, de répondre aux critères. Ça, c'est la première des choses. Et même quand nous en présentons, il y a beaucoup de conditionnalités que nous donnions. Parfois, ce que nous, il faut pas cacher le mot, je suis dans ça, ça fait plusieurs années, ce sont des conditionnalités telles que celui qui est là, ministre, excusez-moi de citer les termes, ou un responsable politique, il demande que lorsqu'on va financer, qu'il y ait une part qui entre dans son compte. Or, avec ces institutions-là, ça ne tient pas, on vous laisse. Et de deux, parfois, il y a la léthargie politique interne. Je parle de politiques économiques, excusez-moi, je suis parlementaire, mais au moins ici, je suis technicien. Donc, il y a la léthargie interne. Je vous donne un exemple. Avant d'être directeur des cabinets au ministère du Commerce, j'étais directeur des cabinets au ministère du Plan. Où la BAD, la seule institution, lorsque nous y sommes entrés avec l'honorable Jean-Lucien Boussa comme ministre, la seule institution financière internationale qui a accepté de nous soutenir directement, alors que les autres trébuchaient encore. Mais ils nous ont seulement demandé, faites de sorte que vous arriviez à terminer le plan stratégique national pour le développement. Parce que ce plan-là, tel qu'il était présenté avant nous, c'était un plan qui est présenté sans tenir compte des aspects de toutes les provinces et des aspects de tous les secteurs. Or, ces institutions-là ne financent pas les individus, ne financent pas des villes. Ils financent la nation. La nation, ça peut être, on finance un projet chez moi à Nyunzu. Donc, ce n'est pas parce que c'est à Nyunzu qu'on peut laisser à côté. Et donc, il faut que le plan national, stratégique national pour le développement soit intégrateur. Mais nous avons passé, moi je passais à peu près, je crois, 10 mois ou 6 mois ou 8 mois au ministère du plan, nous passions en tergiversation, juste pour convoquer une réunion où on doit amener tout le monde à être ensemble, mais on disait qu'il n'y a pas de fonds. Et si vous n'avez pas de fonds, pour élaborer un plan. Qu'est-ce que vous attendez de la Banque mondiale? Qu'est-ce que vous attendez d'IFMI? Qu'est-ce que vous attendez de la BAD? Donc, il faut que sur le plan interne, qu'on ait des politiques décisives, des politiques qui permettent à ce que vous faites un projet et que ces projets soient, n'est-ce pas, au bénéfice de tout le monde et vous les présenter à ces institutions.
Mais est-ce que ces politiques qu'il faut avoir, toutes ces stratégies, faudrait-il attendre ou bien il faut déjà avoir en amont de techniciens qui travaillent sur le problème, qui sont indépendamment liés des actions politiques, parce qu'on peut avoir des changements de gouvernement, on peut avoir de nouveaux ministres qui peuvent venir, c'est pas que quand on a un nouveau ministre qu'il faut maintenant réfléchir sur les politiques, ou il faut travailler en amont, qu'on ait déjà des techniciens qui travaillent, parce que ça reste standard, quelle que soit la personne qui peut prendre le pouvoir, que ce soit dans les ministères ou à la tête de l'État.
Non loin d'être dans une économie planifiée, même dans une économie capitaliste, toute économie doit évoluer selon un plan. Ce plan peut être un quinquennal, ça peut être septennal, ou même un plan de 10 ans.
Qui ne dépend pas des individus,
non,
bien sûr.
Non, ça ne peut pas dépendre des individus, parce que les individus sont passagers. Le plan doit pouvoir rester, même si l'on changeait les ministres, si l'on adopte un plan et que l'on dit que ce plan-là doit être financé tant sur le plan interne que sur le plan externe, c'est-à-dire il y a la mobilisation des ressources qui viennent de nos partenaires, parce que la BAD, c'est un partenaire. La BAD n'est pas un Congolais, ce n'est pas une institution congolaise, c'est un partenaire au développement. Et donc, lorsque nous faisons un plan, nous devons nous dire, voilà la part qui doit être financée d'abord par nous-mêmes, et la part qui doit être financée par, n'est-ce pas, le partenaire technique et financier au développement. Mais malheureusement, je vous dis au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous avons d'abord un plan? C'est ça le problème. Si les PNSD que nous avons là, est-ce que ces PNSD, moi je l'ai laissé en route, je ne sais pas si on l'a terminé, mais est-ce que ces PNSD a tenu compte de remarques qui ont été faites en ces temps-là par ces institutions-là, qui ont refusé en se disant on ne finance pas ces plans parce que ça n'intègre pas le développement dans sa totalité.
Mais là, se pose un problème de structure, parce que si on regarde bien, vous l'avez dit, vous êtes parti, vous ne savez pas si ça a été terminé, cela avait dit que cela dépend du changement au niveau du ministère. Faudrait-il avoir une structure permanente qui s'occupe de l'élaboration de telles stratégies, des plans qui ne dépendent pas exactement de la présence des ministres, une structure permanente.
Je vous dis, la multiplication des structures chez nous, ça n'apporte absolument rien. Parce que quand vous regardez dans chaque ministère, vous trouvez toujours, j'ai circulé beaucoup de ministères dans ma profession, donc vous trouvez toujours des structures qui sont superposées au-dessus de la fonction publique. Pourtant, la première des choses que je vous dis, c'est la consolidation de l'administration publique. Une administration publique flexible, c'est-à-dire capable de pouvoir répondre aux besoins, aux attentes du gouvernement de manière générale, donc du pays, voulais-je dire. Donc, on peut multiplier des structures tant que l'on n'a pas encore solidifié l'administration publique. Mon frère, ces structures-là, généralement, sont des goulots d'air d'étanglement par rapport à certains projets et en plus sont des budgétivores. Parce que vous devez payer ces structures, parce que même si ces structures sont financées par, n'est-ce pas, les institutions internationales, on vous dit toujours qu'il y a la contribution de l'État. Surtout, l'organisation matérielle, le fonctionnement doit être financé par l'État. Voyez-vous que c'est encore une charge pour l'État.
Mais vous ne voyez pas là, professeur, qu'on va mettre en difficulté. Vous avez, comme vous l'avez dit, les Congolais nommés au conseil d'administration, pas seulement pour la RTC, mais pour l'ensemble de ces pays. Mais si sa base, si on peut utiliser les termes, cela veut dire son pays d'origine, a des problèmes de planification, quand bien même il pourrait vous orienter, mais dès lors qu'on a des problèmes à l'interne sur la prévision, quelle que soit sa présence au niveau des institutions, ça risque de poser des problèmes.
Exactement. Moi, j'ai toujours dit que le Congo n'a pas un problème conjoncturel. Les problèmes conjoncturels, ce sont des problèmes qu'on peut résoudre en 6 mois, 9 mois. Et donc, on peut mettre n'importe qui pour un problème conjoncturel, il va déployer ses énergies et puis il va passer. Le problème congolais est un problème structurel. Structurel, ça veut dire qu'il faut entrer dans les structures elles-mêmes. Nous avons deux types de structures qu'il faut vraiment, sur lesquelles il faut toucher. Ce sont ce qu'on appelle les structures d'encadrement. Dans les structures d'encadrement, vous avez les institutions politiques, les institutions administratives qui doivent bien jouer leur rôle. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le structure comme de groupe. Par exemple, je peux citer même des églises. Parce que vous savez que le développement n'est pas un problème seulement économique. Le développement est aussi un problème mental. Parce que là, tout le monde doit jouer. Donc, le Congo a un problème structurel. Lorsqu'on arrive à maintenir ou arriver à résoudre le problème structurel. Je crois que le problème conjoncturel, on a nommé telle personne ou telle personne, ça ne se posera pas.
Ok. 081-890-4969, Jules, vous êtes à Bukavu, Gaston à Kinshasa, Sylvain à Bounia. Nous revenons, nous abordons dans parole aux auditeurs la nomination de Freddy Matungu, le conseiller d'administration de la Banque africaine de développement pour la République du Congo, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, la République démocratique du Congo. Quelles pourraient être les attentes de ces pays? Et d'ailleurs, vers la fin de cette émission avec notre invité, nous allons aussi évoquer la question de la zone de libre-échange parce que cette nomination intervient dans ce flux d'actualité lié aussi à l'installation de la zone de libre-échange. 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Ngoma ya kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Jules, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, au nom du mouvement citoyen, rien sans le peuple, le RSP, la cycle. Je félicite d'abord l'organisation, la BAD, je félicite aussi le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Je félicite aussi cette nomination de M. Freddy Matungu, parce que c'est un homme qui incarne beaucoup de valeurs. Moi, je veux dire que, M. Pierrot, la nomination de Freddy Matungulu à ce poste, non seulement parce qu'il est de l'opposition, on est en train de courtoiser, donc c'est une question de faire déboucher les opposants, mais étant donné que le développement est une affaire de tout le monde, donc il est évident que M. Matungulu peut s'occuper de ce poste au niveau de la base. Alors, ce que je vais donner aux Congolais, donc aux auditeurs de la radio Okapi, c'est pas Monsieur Massoudou, elle garde beaucoup de valeurs, personne.
Voilà.
Maintenant, il doit montrer ses capacités par rapport à cette nomination, parce que aujourd'hui, les Congolais, par rapport aux objectifs de la Banque de développement, de la Banque africaine de développement, la BAD, il y a certains objectifs qui sont là plutôt, mais on doit faire tout pour que tous ces objectifs-là puissent atteindre tous ces objectifs. Maintenant, quand je fais une petite rade au niveau de la base, je vois que leur objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait la pauvreté au niveau de l'Afrique. C'est ce qui nous distingue avec d'autres pays occidentaux, donc dans les continents voisins.
Voilà, là on a des petits soucis. Oui, Jules, il y a un problème de qualité de ligne téléphonique entre Kinshasa et Bukavu, mais quand même vous avez salué la nomination de Freddy Matungulu. Il incarne beaucoup de valeurs pour vous, mais ce que vous demandez, c'est que lui puisse travailler pour accompagner l'institution à atteindre ses objectifs, parce que c'est lié, n'est-ce pas, quand il accompagne l'institution à atteindre les objectifs, c'est exactement aussi la RDC qui se retrouve, parce qu'elle elle reçoit les appuis de la banque, mais malheureusement, la ligne s'est détériorée entre le studio et vous à Bukavu. Nous retournons ici à Kinshasa avec vous, Gaston. Bonjour.
Bonjour, Master. Pierrot, pardon.
On vous écoute.
Bon, Pierrot, vous savez, comme tout fonctionnaire international, c'est une joie d'abord pour nous. Vous savez, on dit souvent que les Congolais n'ont pas l'art d'être fonctionnaire international. Mais avec celui-là, c'est un pas. Et surtout que c'était un truc qui revenait à quelques pays et qu'ils ont sélectionné un Congolais. Tout ce que nous pouvons demander au monsieur qui est sélectionné, qui est choisi, qu'il puisse respecter la déontologie, vous savez, l'image de notre pays dépend de la manière dont il doit travailler. Donc qu'il puisse respecter la déontologie de la haute fonction qu'il assume, parce qu'à ce niveau-là, vous savez, lorsque vous savez, sur les plans internes ici, on critique que les Congolais sont souvent corrompus, n'ont pas de position exacte. Si vous apportez cette image à ce niveau-là, c'est toute l'Afrique qui va se moquer des Congolais, surtout que jusque-là, nous ne sentons pas l'engouement sur le plan-là de la fonction publique internationale. Donc, tout ce qu'on pouvait d'abord demander au monsieur qui est sélectionné, qu'il soit un modèle pour que notre pays aussi puisse... Et au-delà de cela, je voulais aussi dire que, vous savez, la Banque africaine de développement vit en fonction de la participation des États membres. Et notre État, ou soit nos États, qui sont sélectionnés par les Congolais, qui est sélectionnés, sont membres de cette institution. L'institution est faite pour financer les projets permettant la mise en œuvre, la mise en valeur, si je peux dire, des régions ou des pays moins développés. Et pourtant, en Afrique, nous savons que c'est presque tous les pays africains qui sont moins développés. On devrait, à mon avis, sentir l'impact de cette institution qui est née quelques jours après les indépendances de plusieurs États. Mais en réalité, vous savez, nos États, d'abord, pour vous dire, pour votre gouvernement, nos États ne participent pas sur le plan financier, ils ne participent vraiment pas au fonctionnement de cette institution. Ce sont d'autres partenaires étrangers qui viennent financer. C'est ça où c'est les problèmes qui se situent aussi à ce niveau-là. Je demanderais pour que cette institution ait vraiment un impact sur le plan interne ici, que les États africains eux-mêmes, sur le plan interne, arrivent d'abord à produire, à développer leurs États eux-mêmes, et puis de finir dans le cadre des organisations sous-régionales qui sont déjà là, qui ont des objectifs bien précis, afin de développer cette grande espace que nous appelons l'Afrique. Donc le développement doit partir des États partis, et puis les régions vont se retrouver. Et tant que c'est les États-Unis qui participent, que c'est la France qui participe pour le fonctionnement sur le plan financier...
Je crois peut-être que là, le débat sur le mécanisme fonctionnement, la capacité de pays africains de pouvoir mobiliser des fonds pour participer, je crois que c'est un débat peut-être dans les réformes, on pourra peut-être voir. Mais vous avez insisté sur le fait que dès lors qu'un Congolais siège au conseil d'administration pour représenter ces pays cités, c'est l'image de la RDC, cela veut dire que la qualité de son travail, c'est aussi l'image de la RDC sur le plan diplomatique, comme notre invité venait de le dire tout à l'heure. Merci beaucoup, Gaston Sylvain. Vous êtes à Bounia, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis des lignes avec Sylvain. Nous revenons ici dans ce studio avec le professeur Emmanuel Mukundi. Vous avez suivi les uns et les autres, comme je le disais tout à l'heure, la nomination de Freddy Matungulu a coïncidé aussi avec l'actualité sur la création de la zone de libre-échange. On en a parlé tout à l'heure avec le député Boulambo Kilosho qui a participé dans ces projets. Et vous-même, en tant que négociateur sur la zone de libre-échange, le président de la République était là. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une occasion là aussi pour la RDC de pouvoir se retrouver sur cet espace économique en fonction des définitions des politiques aujourd'hui, parce qu'on a vu les gens s'inquiéter pour dire la RDC risque plus de subir que de pouvoir bénéficier de la zone de libre-échange, quels que soient les efforts qu'on peut fournir aujourd'hui.
Merci beaucoup pour la question, M. Pierrot. En fait, il y a d'abord une petite précision à lever. La zone de libre-échange n'a pas été créée à Niamey. La zone de libre-échange tel que nous avions...
Non, c'est un ami où les chefs d'État ont pu signer, oui.
C'est juste une précision, c'est-à-dire tel que négocié, la zone de libre-échange a été créée en mars 2018 à Kigali, lorsqu'on a signé l'accord des zones de libre-échange africaine. Alors, à Niamey, on a lancé maintenant la zone de libre-échange. Ça voudrait dire quoi? Parce qu'il fallait attendre qu'on atteigne 22 pays qui ratifient l'accord pour que l'accord entre pour les pays qui ont ratifié. Merci, oui. L'accord entre en exécution. Et donc à Niamey, c'était maintenant pour dire la zone de libre-échange, maintenant que nous avons 27 pays qui ont signé, nous avons dépassé les 22, donc la zone de libre-échange peut déjà entrer en marche. Voilà cette petite précision. Est-ce que c'est une bonne chose? Si elle était mauvaise, j'abandonnerais. Parce que je suis professeur en économie monétaire internationale, je connais les règles du jeu. Si c'était mauvais, j'abandonnerais. Parce qu'il faut d'abord ici commencer par préciser aux auditeurs pourquoi la zone de libre-échange? la zone de libre-échange, c'est une arme contre la mondialisation. Et la première expérience d'une zone de libre-échange connue plus comme modèle, c'est la zone de libre-échange européenne. Lorsque les Européens ont constaté, avec le changement qui sont intervenus après la Deuxième Guerre mondiale, avec la création précisément d'IGATT, où le système commercial multilatéral a prôné pour le libre-échange, c'est-à-dire ouvrir toutes les portes en ce qui concerne les barrières non tarifaires, en diminuant sensiblement les barrières tarifaires, l'Europe a constaté que nous sommes en train nous sommes en phase de construction après la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et donc, si nous acceptons ces principes du système commercial multilatéral, nous allons être engloutis par le produit qui viendrait ailleurs. Et donc, faisons une union, un ensemble où nous allons, nous, ouvrir nos portes entre nous, parce que nous sommes favorisés géographiquement et nous sommes favorisés par la proximité. On peut se vendre entre nous ce que la Belgique manque, peut vendre en France, ce que la France manque, peut vendre en Europe. On peut le faire en nous soutenant nous-mêmes, dans la mesure où lorsque nous soutenons l'économie allemande, nous soutenons par ailleurs l'économie française, dans la mesure où les Français peuvent être aussi employés en Allemagne. Voilà. Par contre, si nous laissons le produit américain, les produits japonais entrent dans notre zone, c'est-à-dire nous tuons notre industrie totalement. Voilà comment l'histoire de la zone de libre-échange. C'est-à-dire, la zone de libre-échange, c'est un groupe, c'est un ensemble de pays qui se sont mis ensemble pour pouvoir s'ouvrir entre eux, prendre des mécanismes qui permettraient à ce qu'ils puissent échanger davantage entre eux, tout en se protégeant contre le mouvement qui vient du reste du monde. Au concret, ça voudrait dire quoi? Imaginez-vous que nous soyons avec le Congo-Brazzaville. Mm-hmm. Que le Congo-Brazzaville soit en mesure de nous fournir le chemise, par exemple. On ne peut pas aller acheter les chemises en Chine. Nous achèterons les chemises qui viennent du Congo-Brazzaville parce que ça va coûter moins cher vu la proximité. Et donc, nous donnons de l'emploi aux Congolais de l'autre côté. Et en donnant de l'emploi aux Congolais de l'autre côté, si là on a besoin de l'expertise, on peut permettre aux Congolais de Kinshasa d'aller travailler à Brazzaville. Tout simplement parce qu'il y a la proximité. Mais on ne peut pas permettre à un Congolais d'aller travailler, n'est-ce pas, en Chine. Parce que la distance ne lui permettra pas et les conditions ne permettront pas. Voilà l'importance de la zone de libre-échange. Donc, c'est une arme contre la mouvance de la mondialisation. Voilà la première importance. La deuxième, est-ce qu'il fallait que la République démocratique du Congo y entre? J'ai dit oui, parce que la République démocratique du Congo, qu'on n'oublie pas, géographiquement, Dieu nous a fait grâce d'être le cœur même de l'Afrique. Mmh. On ne peut jamais concevoir l'Afrique, le développement de l'Afrique, en mettant à côté la République démocratique du Congo. Tout simplement pourquoi? Parce que dans la zone de libre-échange, dans le projet de fédérateur, il y a des routes qui vont traverser, commençant par le Cap en Afrique du Sud, jusqu'au Caire. Vous voyez que cette route ne peut passer ailleurs si ce n'est que par la République démocratique du Congo. Et il y a des routes qui commenceront à Mombasa jusqu'à Lagos. Mm-hmm. Mombasa, c'est au Kenya. Lagos, c'est au Nigeria. Donc, voyez-vous, regardez un peu la géographie. Où est-ce que cette route peut passer si cette route ne peut pas passer par la République démocratique du Congo?
Alors, c'est vrai que là, on s'est retrouvé dans deux grandes actualités, hein, sur les plans continentales. La nomination de Freddy Matungula à Nabad, la zone des libre-échanges. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en interne aujourd'hui, la RDC a-t-il déjà les capacités nécessaires pour bénéficier de ces avantages?
Très bien. D'abord, la zone des libre-échanges telle qu'elle est ratifiée et lancée, la RDC n'est pas concernée. Pourquoi la RDC n'est pas concernée? Dans les accords, nous avons négocié en divisant le pays tel que nous le classons sur le plan international. Les pays, dans les négociations internationales, vous avez les pays le moins avancés, vous avez les pays en développement, et puis vous avez les pays développés. C'est dans le pays en développement, au sommet, vous trouvez les pays émergents. Et alors, lorsque nous avons négocié en Afrique, nous avons considéré que nous avons deux catégories de pays. Nous avons le pays en développement, dont la tête, c'est l'Afrique du Sud et le Nigeria, parce que eux, c'est l'Afrique du Sud particulièrement, c'est un pays qui tend vers, c'est un pays émergent. Le Nigeria, c'est un pays qui tend vers l'émergence, mais les autres, les Gabon et autres, sont des pays en développement. Mais nous, par le chiffre économique, ce n'est pas un choix, c'est-à-dire que par sentiment qu'on a choisi d'être le pays le moins avancé. Non. Les chiffres économiques, le PIB par habitant, montrent que nous sommes un pays moins avancé. C'est-à-dire nous sommes parmi les pauvres du monde. Alors, nous avons négocié en se disant, la première des choses, premier élément, premier principe, c'est la géométrie variable. La géométrie variable, ça veut dire quoi? Nous n'allons pas aller dans le même sens. Ceux qui sont prêts peuvent commencer. Mais ceux qui ne sont pas prêts, eux peuvent, sur le plan interne, ne pas dormir. Sur le plan interne, travailler. Et là, dans les négociations, les techniciens de l'économie nous ont donné trois piliers. Le premier pilier, quand vous entrez, vous signez l'accord, commencez déjà aussi à investir sur le plan interne dans les infrastructures. Parce que les infrastructures fédérateurs de l'Union africaine doivent être connectées avec les infrastructures internes de vos pays. Donc il faut travailler des infrastructures, il ne faut pas dormir. Il faut déjà faire un effort pour pouvoir industrialiser votre pays, de sorte que vous puissiez entrer dans la chaîne des valeurs. Ça voudrait dire quoi tout simplement? Si on fabrique les Volkswagen au Rwanda, mais le Rwanda n'a pas la capacité de fabriquer les pneus. Nous pouvons fabriquer les pneus et envoyer les pneus au Rwanda. Mais pour cela, il faut être
industrialisé. Et faudra-t-il encore attendre combien de temps pour que la RDC soit concernée rapidement pour écouter les trois derniers auditeurs?
J'arrive. Juste deux minutes. Et la troisième condition, c'est la connectivité. La connectivité, c'est-à-dire connecter les pays, intégrer d'abord les pays entre lui-même et intégrer les pays avec le reste du monde sur le plan des infrastructures routières, sur le plan de toutes les infrastructures, même les infrastructures électroniques. Ça, c'est la troisième des choses. Alors, pour cela, nous avons négocié comme le pays le moins avancé. Nous avons 10 ans. Donc, à partir du moment où vous signez l'accord, comme on a signé en 2018, nous avons encore 10 ans. Et pour nous, le pays le moins avancé, on nous ajoute encore 3 ans. Et en plus de ça, vous faites les choix. C'est ça la technique là que les gens ne peuvent pas comprendre. Vous faites le choix des produits que vous pouvez accepter l'ouverture. On appelle ça la liste des produits qu'on doit ouvrir. Et d'ici 10 ans, vous avez 90% des produits que vous devez présenter sur la liste. C'est à vous de choisir. Et là, ça ne dépend pas de la zone de libre-échange. Ça dépend de vous. Et d'ici 13 ans, vous devez maintenant faire le 100%. Voilà un peu. Donc, nous avons encore au moins 12 ans. Et ça, ça nous donne pour exécuter les trois choses que je viens de vous dire. Les infrastructures, l'industrialisation et puis la connectivité. Pour diversifier votre économie.
Alors, on va écouter les trois derniers auditeurs. On revient à vous. L'actualité, elle était très, très intéressante, n'est-ce pas, avec et la nomination de Freddy Motungulu et la zone des libre-échanges, des éléments assez importants qu'on a partagés ensemble. Hein. On va vous écouter rapidement Bénin qui est ici à Kinshasa, Isidore est à Kikwit et Sylvain à Bounia. Rapidement, parce qu'on va se séparer bientôt là. Bénin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute rapidement, oui.
Je suis très content que mon intervention soit juste après les détails que vient de donner l'invité là-bas. La nomination de Freddy Matungulu en soi n'est pas une mauvaise chose. Sur le plan fierté nationale, c'est quelque chose de bien. Mais le plus important, c'est quoi? On est en train de passer à la côté de l'essentiel. La Banque mondiale, on l'appelle Banque mondiale parce que tous les pays membres contribuent. On n'est pas justement bénéficiaire. Mais pour arriver à contribuer dans une banque, il faut avoir une certaine capacité contributive, c'est-à-dire les finances publiques au niveau du pays qui doivent être mobilisées pour prendre part à cette participation financière. Mais lorsqu'on est faible à l'interne à ce niveau-là, quelle est alors l'importance? Quelle est la valeur de la RDC si aujourd'hui M. Freddy Matungulu est là? D'ailleurs, moi, je suis en train de croire que les gens ne vont pas être d'accord avec moi, même tous ceux qui m'ont précédé. J'aurais souhaité qu'on puisse fêter que Freddy Matungulu soit nommé ministre de l'économie nationale pour voir dans quelle mesure il va redresser l'économie du pays. L'économie du pays à l'interne est forte, qui nous rendra capable de participer à toutes les activités financières internationales. Ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine.
Et vous savez que vous avez rejoint tout à l'heure.
S'il vous plaît, monsieur le journaliste.
Oui, rapidement, oui.
Il vient de dire que nous sommes le pays moins développé lorsqu'il a crassé. Mais là, même Dieu n'est pas content que la RDC, avec tout ce qu'il a équipé, soit classé dans ce sens-là,
et c'est comme
le pays le moins avancé.
Et c'est ça la responsabilité de Congolais, c'est de pouvoir renverser cette situation. C'est paradoxe. Alors, mais pour vous, vous aurez aimé. Merci beaucoup, Bénin. Vous aurez aimé que Freddy Matungulu soit le même ministre de l'économie. Il avait dit que les problèmes, c'est d'abord à l'interne, avant qu'on puisse avoir cette valeur à l'extérieur. Isidore Kitia, merci d'être avec nous. Dès qu'il quitte, bonjour. Isidore, vous êtes avec nous. Bonjour. Des petits soucis des lignes. On va terminer, je crois, cet échange avec Sylvain qui est à Bounia. Bonjour, Sylvain. Sylvain, vous êtes avec nous. Assurément, je crois qu'on a des petits soucis, hein, des lignes avec les auditeurs. Pour le reste d'auditeurs, vous nous excuserez parce que là, on a des petits soucis pour pouvoir vous joindre. Hein. On revient dans ce studio avec notre invité. Vous avez suivi, hein, Bénadé de Kinshasa, qui dit tout à l'heure que le problème, c'est la consolidation de l'économie à l'interne pour que la valeur de la RDC, que ça soit à la Banque africaine de développement, que ça soit la zone des libre-échange. Alors, est-ce que le problème de tous ces paradoxes, c'est un problème de vision ou c'est un problème de compétences?
Bon, je crois que non. Mon prédécesseur l'a dit, il s'est très bien dit. Même si on nommait ministre Matungulu comme ministre de l'économie, en étant dans le même système, on ne peut pas évoluer. Moi, je dis, le problème, il est la crise est systémique. C'est à l'intérieur du système. L'intérieur du système, ça voudrait dire quoi? Il faut savoir valoriser chaque structure du système. Il y a des structures sociales qu'il faut valoriser, c'est-à-dire donner la place aux structures sociales, jouer leur jeu. Il y a des structures politiques, il y a des structures institutionnelles de manière générale qui ont leur place et il faut leur donner la place à jouer. Ce n'est pas un problème économique. Le problème de développement, c'est un problème, c'est un tout. Le développement est multidimensionnel. Et il y a aussi le problème démographique. Vous vous rappellerez, c'est pas moi. Comment un pays peut faire 40 ans sans recenser la population? C'est un problème économique. Ça voudrait dire quoi? La population est en même temps, n'est-ce pas, le consommateur et en même temps le producteur. Mais nous ne connaissons pas le nombre de bouches à nourrir, monsieur Pierrot. Vous, si vous ne connaissez pas le nombre des enfants ou de membres de votre foyer, comment vous allez donner l'argent le matin? C'est un problème. Donc ça, c'est la structure démographique qui n'a rien à foutre avec la production d'abord. Nous ne connaissons pas le nombre, même le PIB tel que nous le présentons chez nous. Je vous dis, c'est encore douteux, parce que notre PIB là, ça tient compte des statistiques qui sont extrapolées la plupart. On ne tient pas compte de ma grand-mère qui produit chez nous au village, ou de mon grand frère qui a son champ chez nous au village. On ne prend pas ça en compte. Voyez-vous, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'éléments structurels. C'est pourquoi j'insiste, le problème congolais est structurel. Et donc, la mise en œuvre du plan stratégique pour le développement, c'est un élément.
Et c'est pourquoi je pose cette question. Est-ce que c'est un problème de vision, un problème de compétences?
Non, mais le problème des Congolais sont compétents, mais c'est un problème des fédérateurs. Mais je vois aujourd'hui, avec la bonne volonté du chef de l'État actuel, mais évidemment qui prend la suite, hein, c'est qu'il prend la suite de l'autre, parce que le premier a laissé les bases. Parce qu'en économie, on ne commence pas du néant. On ne peut pas peindre une maison et puis dire que non, j'ai construit. Non, il y a celui qui a mis les briques et puis vous avez peint. On ne peut pas mettre les sautes-moutons sans qu'il n'y ait pas une route. Il y a une route et puis on met les sautes-moutons. Donc, avec la vision aujourd'hui du chef de l'État, soutenu par cette coalition de Congolais qui ont compris que aujourd'hui on doit se mettre ensemble. Parce que le problème, ce n'est pas de la BAD, de la Banque mondiale. Non, c'est notre problème. Je crois qu'il y a lieu, si nous y croyons tous, de pouvoir booster notre économie en changeant le système. Parce que le problème est systémique, le problème n'est pas un problème.
Alors, je vais terminer avec cette question, parce que vous avez tout à l'heure évoqué la question de structures qui sont bidétivores. Cela veut dire qu'il y a quand même l'apport de techniciens, des experts. Est-ce que vous avez tendance que le politique se base sur vous, les techniciens, les experts, pour élaborer ces plans, pour penser à définir cette vision et cette stratégie?
Oui, par exemple, je prends le cas du plan. Moi, je pense que ça devait être une priorité. Ça devait être une chose urgente. Est-ce que nous avons la même manière de comprendre ce plan-là? Non. Il y a ceux qui pensent que lorsque vous réunissez les techniciens pour réfléchir de sorte à mettre un plan cohérent, c'est-à-dire un plan qui tient compte des micro-plans provinciaux et un plan qui est intersectoriel, parce que l'économie a besoin de connecter les secteurs. Ça voudrait dire quoi? Ce qui est produit dans les secteurs agricoles doit être transformé dans les secteurs industriels. Et ce qui est produit et dans les secteurs agricoles et dans les secteurs industriels doit être transporté du centre de consommation vers le centre, non, des centres de production vers le centre de consommation. Et donc, c'est un problème de vision, oui, je le dis, mais ça demande à ce que tout le monde en prenne conscience.
Voilà,
c'est-à-dire que la vision, la conscience collective.
Voilà, la vision doit être associée aux compétences, aux techniciens, et je crois que c'est de cette façon qu'on peut y arriver. Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons reçu dans ces studios professeur Emmanuel Mukundi, député national élu des New Toulouse ou dans le Tanganyika. Vous prestez aux facultés des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, mais aussi négociateur de la zone de libre-échange. Merci de nous avoir accordé les 7 ans. Merci aux auditeurs qui ont été nombreux. Nous poursuivons les débats sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, en remerciant aussi le député national Boulambo Kilosho qui est avec nous en début d'émission.
Allô? Mais ils ne répondent pas.
Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et J.R. Lungembo. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Au revoir.